Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelques réflexions sur l'amour véritable. Nous arrivons à l'étude numéro 4. Chers amis, lors du mariage religieux, vous vous rappelez sûrement, les époux se promettent fidélité. Je promets de t'être toujours fidèle dans la joie et dans la douleur, dans la santé et dans la maladie. Et ils poursuivent. Je promets de t'aimer et de t'honorer tous les jours de ma vie. Ce sont des mots graves, graves pour une promesse qu'il s'agit ensuite de tenir au long d'une vie qui n'est pas toujours à l'eau de rose. Il en est effectivement où l'on a du mal à se supporter, où l'on traverse des crises, où on ne discerne plus le fondement de l'union. Aimer l'autre en dépit des tempêtes, c'est l'expression de l'amour spirituel plus grand que l'amour charnel. Ce serment garde donc sa valeur si les chemins des partenaires se séparent. Et oui, et cela, quelle qu'en soit la raison. Chacun doit continuer à aimer, respecter et à honorer l'autre. Si par exemple, une femme quittée par son mari le dénigre, eh bien c'est une partie d'elle-même qu'elle dénigre par la même occasion, car elle a tout de même vécu un certain temps avec lui. Honorer ne veut pas dire que je doive exempter l'autre de sa faute ou refouler la souffrance qu'il m'a infligée en se séparant de moi. Cela veut dire que je continue à honorer en lui ou en elle ce que j'ai aimé et que je ne perds pas le respect que j'ai pour lui ou pour elle. Mais s'il, on peut dire, emprunte ou elle emprunte des voies que je ne comprends pas toujours et qui révèlent des aspects négatifs de lui ou d'elle, eh bien, je dois continuer tout simplement de rester honorable et correct et ne pas dénigrer inutilement. Chers amis, que signifie aimer l'autre si je ne ressens plus en moi le véritable sentiment d'amour? Alors je déplore que des élans amoureux ne nous portent plus l'un vers l'autre, mais je peux tout de même reconnaître et accepter la force de cet amour quotidien qui s'exprime sous d'autres formes de, telles que, par exemple, la solidarité, ça existe, la loyauté, ça existe, la confiance, la serviabilité et surtout le respect. Ce n'est pas seulement l'amour qui cimente un couple au plus profond de lui-même, mais c'est aussi, vous savez, vraiment l'amour véritable, voyez-vous? Et cet amour-là peut, lui aussi, sauver pour un temps un couple. Voyez-vous, il ne faut jamais perdre l'espoir que cet amour quotidien, moins vivace, puisse à nouveau se transformer en un nouvel élan. Certains pensent que cette forme amicale de l'amour est insuffisante dans un couple parce que même s'ils s'entendent bien, il leur manque la passion, le désir de l'autre. Mais pensez ainsi, c'est se faire une image figée de l'amour, c'est en déplorant ce qui manque à notre amour que nous pouvons jouir avec reconnaissance du cadeau d'une amitié amoureuse. C'est déjà beaucoup de réussir à vivre à deux dans l'amitié et de se respecter et de s'honorer, de se compléter. Voyez-vous, le grand amour érotique n'est pas toujours absolument indispensable. Chers amis, s'il arrive que l'amour démasque en nous une souffrance, nous pensons souvent que l'autre en est responsable et nous le lui faisons payer en lui rendant l'appareil. Ainsi se met en place un cercle vicieux de blessures réciproques qui, loin d'approfondir l'amour, au contraire, le détruisent. Celui qui s'engage sur le chemin de l'amour doit savoir que c'est un chemin de vérité. Oui, un chemin qui va me faire découvrir la mienne et celle de mon ou de ma partenaire. Et c'est la mise à nu de cette vérité qui est réellement douloureuse. Toutefois, l'amour peut être l'heureuse occasion de guérir la souffrance. Voyez-vous, si je m'assume moi-même avec mes blessures, si je ne condamne pas l'autre pour les siennes, et si au contraire je l'aime comme il est, je répète, si au contraire je l'aime ou j'aime elle comme elle est, alors l'amour sera en mesure de guérir à la fois les siennes et les miennes. Alléluia. Chers amis, il n'est pas de relation sans blessure. La proximité qui entre deux êtres s'intensifie jour après jour, fait grandir l'amour. Mais les blessures aussi peuvent le faire grandir. Elles font que j'ouvre ma vie à l'autre. Elles montrent que je ne peux pas indéfinitivement en rester à la façade. Si je veux vraiment sentir mon partenaire, être véritablement en contact avec lui, et j'ajoute avec elle, je dois tomber le masque. Je dois sortir de la maison de ma vie et je dois me montrer tel que je suis. Dévoiler sa sensibilité et sa vulnérabilité, c'est cela qui fait peur. Parce que nous voudrions tous, nous voudrions apparaître comme des êtres forts et totalement invulnérables. Parce que nous pensons que tels que nous ne sommes pas bons, nous nous renfermons, nous nous cachons derrière une carapace, et cela de crainte d'être mésestimés si nous révélons nos faiblesses. Eh oui, chers amis, chacun des deux partenaires doit donc être conscient que l'autre a le droit de penser parfois différemment. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les mêmes choses qui se donnent à la télévision ou qui se montre dans les journaux, je ne dois pas, par exemple, tenir l'autre pour responsable du conflit qui nous oppose. Ce conflit peut être précisément l'occasion bienfaisante pour nous, d'aller au-delà des points de friction qui font surface et de creuser pour parvenir à notre fondement commun qui, lui aussi, peut comporter et supporter des divergences d'appréciation. Les partenaires ne doivent pas être toujours du même avis. L'harmonie, ce n'est pas toujours quelque chose qui est strictement indispensable sur tous les sujets. Car toute querelle, si elle conduit à un duel de reproches, cela peut aussi nous rapprocher l'un de l'autre. Et comment ? On dit bien que tout frottement engendre de la chaleur. Les conflits ont bien souvent comme conséquence de réchauffer l'amour. Chers amis, la vie en commun de deux individus ne peut réussir que si tous les deux sont capables de pardonner. Si ce n'est pas le cas, ils vont passer leur temps à dresser une comptabilité des erreurs de l'autre et ils vont même jusqu'à la noter sur papier et ils vont en faire payer, tout cela fera que grossir au fil du temps. Voyez-vous, ce processus, qui ne sera pas à sens unique, car aussitôt cette note présentée au partenaire, eh bien celui-ci brandira la sienne à son tour. Cela ne peut que ruiner la relation. Le pardon, en revanche, va assainir toute l'atmosphère. En pardonnant, non seulement on se guérit soi-même, mais on se rend à nouveau apte à aimer l'autre sans condition, en effaçant tout grief. Sans cette capacité au pardon, les deux partenaires s'éloignent l'un de l'autre, une hargne s'installe qui peut même aller jusqu'à la haine. Or, en pardonnant, je vais d'abord me libérer de l'énergie négative que la blessure reçue a insufflée dans mon âme et qui pollue tout mon être. Et puis, voyez-vous, cette blessure, je vais m'en débarrasser, je vais la laisser à mon partenaire, en quelque sorte, et ne plus en faire une obsession. Donc, je vais me refuser à utiliser ou l'utiliser pour adresser un reproche à mon partenaire. Mais je ferai fausse route en me considérant comme le plus fort parce que je pardonne. Car en effet, cela signifierait à l'autre que je suis moi magnanime et que lui seul a eu tort. Non, pardonner, ce n'est pas accuser l'autre. Pourquoi vouloir toujours et toujours accuser l'autre? C'est être conscient, si je pardonne, que j'ai moi aussi ma part de responsabilité. C'est donc se pardonner à soi-même et à l'autre. Et c'est ce pardon-là que le partenaire peut vraiment accepter. Liebe Freunde, chers amis, les reproches ne raniment pas l'amour. Bien au contraire, ils l'éteignent. C'est un peu comme si j'allais éteindre une bougie en l'éteignant définitivement. Il s'agit donc d'être d'accord pour accepter que l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit ne peuvent être toujours parfaits. Déplorer cette imperfection va me conduire au tréfonds de mon âme où je découvre l'immense potentiel d'amour que Dieu y a déposé et dont je vais, dès ce moment, pouvoir découvrir les côtés positifs. Nous sommes loyaux et fidèles l'un envers l'autre et nous nous respectons, nous nous soutenons l'un l'autre. Voilà autant d'expressions de notre amour que nous ne pouvons pas toujours traduire en sentiments, car les sentiments vont et viennent. Mais l'amour qui dépasse les sentiments, l'amour divin, oui, l'amour divin, eh bien cette source-là qui abreuve notre amour humain, elle demeure pour toujours. Gloire à Dieu. Chers amis, le désir naît et ne sera jamais assouvi. Il éveille toujours un nouveau désir. C'est celui d'un amour plus grand encore, et c'est ce désir-là qui maintient vivant l'amour entre deux êtres. Entre deux êtres qui les rend ainsi capables de s'aimer. Alors même qu'aucun des deux partenaires ne peut satisfaire totalement les attentes ou les exigences de l'autre. Ainsi le désir est, d'une part, la force qui me pousse toujours chaque fois à me donner à ma femme et à faire chaque fois l'expérience de l'amour, et d'autre part, c'est aussi une force qui veut m'emporter au-delà de l'amour que j'éprouve pour ma femme dans l'amour infini de Dieu le Père. Le désir qu'éprouve l'homme ou la femme renvoie toujours à l'amour divin. Oui, cet amour divin dans lequel l'amour qu'il partage trouve son accomplissement. Mais cela ne veut pas dire que je fais l'impasse sur l'amour concret que je ressens pour ma femme ou pour mon mari. L'amour érotique et sexuel aiguillonne toujours mon désir de l'amour infini de Dieu, oui, qui à son tour, Dieu à son tour, me permet de me satisfaire de l'amour concret qui existe entre nous. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous nous offrons l'un l'autre. Dans l'acte sexuel et dans les manifestations quotidiennes de notre amour, nous nous référons mutuellement à cet amour bien plus grand que nous-mêmes. Chers amis, l'amour est donc quelque chose de divin, car Dieu est amour. Celui qui est en Dieu est aussi dans l'amour et inversement. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, selon 1er épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Mais il ne suffit pas de jouir du don divin de l'amour. Notre devoir, c'est de déverser cet amour sur les hommes et dans le monde. Nous devons l'exprimer par de nouveaux comportements, sans quoi il s'éteindra et nous étoufferons dans le sentiment de l'amour. Pour rester vivant, l'amour doit être fluide. Si nous sentons l'amour en nous, nous avons compris quelque chose et on peut dire nous avons compris quelque chose à Dieu et nous avons donc ainsi part à lui totalement. Et cet amour nous permet de résister à tout ce que dans le monde nous ne comprenons pas et avons du mal, beaucoup de mal, à accepter. Dieu est l'amour qui nous environne et qui est en nous. Dieu est le mystère insondable qui nous apparaît en toutes choses, un toi qui se présente à nous. Et il est l'esprit qui, au fond de notre âme, jaillit inlassablement comme une source qui nous rafraîchit et qui nous anime. Chers amis, en Dieu qui est amour, notre entier désir, celui que nous avons durant notre vie et qui ne peut être rassasié ici-bas, sera enfin comblé. On ne peut pas expliquer abstraitement à quoi ressemble concrètement cette satisfaction totale, ni non plus la transmettre comme un savoir véritable. On ne peut que la décrire en images, comme le font la Sainte Bible et la tradition religieuse. Des images qui dépeignent la vie après la mort comme un repas de noces, comme une fête éternelle, comme la vision de Dieu, comme un repos infini. N'oublions pas cependant qu'il s'agit d'images que nous ne pouvons finalement plus décrire avec des mots, mais elles ont une importance et une signification. Elles sont une fenêtre qui porte notre regard dans la bonne direction. Elles sont certes différentes, mais quelles qu'en soient, quelles qu'elles soient, elles portent toutes en elles la conviction que nous pouvons avoir confiance que dans la mort même, nous ne ferons que un avec Dieu, et cela pour toujours, et que en lui, oui, en lui, nous trouverons notre être véritable. Chers amis, Dieu est le fondement qui pénètre absolument tout, tel que l'esprit qui emprunte toute chose, telle que l'énergie qui coule en tout, telle que l'amour qui agit en tout. Dieu porte le monde et le pénètre. Il est en dehors de moi et en même temps dans mon cœur. Oui, il est dans le monde et je dis et en même temps au-dessus de lui. Il me faut parfois prendre du recul par rapport au monde pour sentir Dieu dans le silence. Mais si je fais preuve de suffisamment de sensibilité, je peux le percevoir absolument partout. Oui, l'évangile apocryphe de Thomas, pas toujours reconnu évidemment, mais ce n'est pas défendu de jeter un coup d'œil et nous n'irons pas pour cela perdre notre salut. Donc l'évangile apocryphe de Thomas, un texte gnostique du deuxième siècle, nous livre cette parole de Jésus. Je suis la lumière qui est sur toute chose. Combien c'est vrai. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est venu à moi. Fendez du bois, par exemple. Eh bien, je suis là. Soulevez même une pierre, tout simplement. Eh bien, vous me trouverez là. Voyez-vous ? Chers amis, s'il ne s'ouvre pas à la transcendance, l'être humain se cloisonne en lui-même et il sombre dans sa propre étroitesse et dans ses limites. En faisant un avec Dieu, eh bien, il fait un avec lui-même, avec la création et avec tous les autres hommes. Il n'est plus déchiré et entrevoit le mystère de toute relation, ne faire qu'un avec l'autre, c'est être au diapason de soi-même et de la vie. Chers amis, une nonne bouddhiste, oui, ça existe, une nonne bouddhiste a dit un jour que l'amour pour elle était trop fatigant. Par amour, elle entendait un sentiment et elle pensait qu'il fallait aller plus profondément dans l'espace de l'indifférence totale où tout est semblable. Mais l'amour n'est pas un sentiment, c'est une qualité de l'être. L'espace est empli de l'espace et de l'esprit de Jésus, qui est lui amour. Jésus, c'est l'amour divin et une force, une dimension de l'être qui transcende tous les sentiments. Je ne dois donc pas me forcer à éprouver certains sentiments. C'est plutôt la parole dans laquelle vibre l'esprit de Jésus qui entend introduire en moi le mystère sans parole. Cet espace silencieux n'est néanmoins pas vide. Il est empli de la qualité de l'amour divin, oui, de l'amour divin qui n'est pas prioritairement un sentiment. Mais non, ce n'est pas, je répète, prioritairement simplement un sentiment, mais c'est une force qui me transforme et qui me génère. C'est une atmosphère de chaleur et surtout de miséricorde. Chers amis, Bernard de Clairvaux le savait. Il a dit « Dieu ne peut que aimer ». Pour parler de l'amour que les hommes portent à Dieu, il invite ses auditeurs à ne pas seulement lire dans le livre de la Création et dans celui de la Sainte Bible, mais à puiser dans celui de leur propre vécu, tel que l'expérience de l'amour humain qui nous aide à comprendre le mystère de l'amour divin. Les premiers mots de son célèbre ouvrage sur l'amour pour Dieu sont très éloquents. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu. Je répète, la raison d'aimer Dieu, c'est Dieu. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et traversant toutes les étapes de l'amour, l'homme doit parvenir, en passant par le désir charnel, par l'amour qui attend d'être aimé en retour à l'amour pur de Dieu, qui m'a aimé tellement qu'il a permis à son Fils de se sacrifier pour racheter ceux qui, comme moi, étaient totalement perdus. Chers amis, en le cherchant, mon désir de lui se fait de plus en plus fort. Et c'est en dernière instance l'amour pour Dieu, oui, l'amour pour Dieu, qui me pousse à chercher Dieu et surtout à le trouver. Et le trouver m'incite à l'aimer davantage, davantage encore. Mais chercher et trouver n'ont jamais de fin. Je ne le trouverai jamais au point de ne plus avoir à le chercher. En le trouvant, il se soustrait de nouveau à moi. Mais si je trouve Dieu, si je tâtonne et le perçois furtivement, mon amour pour lui grandira et l'amour aiguise mon désir et je recommence alors à chercher Dieu ardemment. Oui, c'est vrai, nous pourrions ainsi continuer, mais pour aujourd'hui, je terminerai ici et nous allons prier maintenant ensemble et je vous dirai la strophe d'un très ancien cantique. Ensuite, je vous mettrai deux chants d'un lointain passé, 1965. En ce temps-là, il n'y avait évidemment pas de CD. Voici donc la strophe de cet antique ou ancien cantique. Que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qu'il soit la part et la richesse de ton troupeau qui t'en bénit. Exauce, ô Dieu, notre prière. Viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, ô tendre Père, dans l'unité consomme-nous. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te prions de remplir nos cœurs de cette charité de 1 Corinthiens chapitre 13, que nous sommes si incapables de produire en nous-mêmes, et sans laquelle l'espérance et la foi même ne sont rien devant toi. Ce n'est que par la contemplation de tes humiliations, de tes souffrances, de ta croix, ô Jésus notre Sauveur, que nous comprendrons quelque chose de cette charité divine. Ô, donne-nous de ne pas nous lasser de méditer sur ce que tu as fait pour nous. Réchauffe nos cœurs au contact de ton amour infini, et que nous, nous pénétrions de chacun des traits par lesquels ton Saint-Esprit nous décrit la véritable charité, afin de nous demander devant toi si nous pouvons la reconnaître en nous, cette charité, la patience, la douceur, la pleine de bonté, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, que rien n'altère, que rien n'ébranle, et qui ne périt jamais. Ô, que nous avons besoin que tu opères en nous, Seigneur, et que nos cœurs soient réellement transformés à ton image, pour qu'elles puissent vivre et se développer en nous. Assiste-nous donc par ta grâce, Dieu qui est amour et qui nous a aimés le premier. Viens demeurer en nous toi-même, afin de nous apprendre à aimer non seulement ceux qui nous font du bien, mais également nos ennemis, comme nous avons été aimés, et pour tout cela, pour l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, j'essayerai de vous mettre deux chants de ce lointain passé, pour autant que ça fonctionne.
Above to keep his children well. Tell me, please, if this God is so good, then tell me how he could let someone burn in hell. If your God is really all that kind, he really shouldn't mind as long as people try to do the very best they can, to love their fellow man as much as you or I. You can give away your earthly gain, you can comfort those who suffer pain, you can sacrifice your life to save another, but it's not the key to no eternal joy. For the way has been provided by my Jesus. He's the living, resurrected Son of love. God has never been untrue, he'll be the same to you. Thank you, Father, you are my God of love. this I say, my God's a God of love, who looks down from above to keep his children well. He cared so much, he came here as a man to share salvation's plan and take my place in hell. It's so simple, it can pass you by. There is no need to try to make it on your own. Oh, sing the freedom song with me. Eternal life is free since Jesus died alone. You can give away your earthly gain. You can comfort those who suffer pain. You can sacrifice your life to save another.
These hard working hands. these are looking hands.